ou quelqu'un que vous connaissez étudier une nouvelle langue? Le concours national des langues SBS 2018 est ouvert jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sbs.com.au/nlc18. Et à la une de ce samedi 3 novembre 2018, le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, la collectivité territoriale du Pacifique Sud, vote demain, dimanche, pour obtenir ou non son indépendance. Les sondages sont en faveur du camp du non. On reviendra en direct sur la situation avec notre correspondant sur place, Christophe Mallet, après ce journal. Autre titre de l'actualité, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui à la fin des violences au Yémen pour éviter que le pays ne tombe dans, je cite, un précipice. Enfin, Tony Abbott a parcouru l'Australie du Sud dans le cadre de ses nouvelles fonctions, dans le but d'améliorer les taux de fréquentation et de résultats scolaires des aborigènes. Depuis cette année, l'ancien Premier ministre a la fonction d'envoyé spécial sur les questions aborigènes. Sa légitimité reste mise à mal. On part en Nouvelle-Calédonie pour débuter cette édition à 24 heures maintenant du référendum d'autodétermination. Dernière ligne droite pour les 270 000 habitants qui doivent dire s'ils décident de rester dans la République, scénario le plus probable, ou s'ils optent pour l'indépendance. Les sondages prédisent la victoire du non dans une fourchette allant de 63 à 75%. Les Kanaks ont appelé à boycotter le scrutin qui représente moins de 50% de l'électorat, rappelons-le. Et sur place, tout est organisé pour que le vote se déroule dans les meilleures conditions, notamment en matière de sécurité. Reportage à Nouméa de l'envoyé spécial de RFI, Julien Chavanne.
Donc là, tout simplement, sont matérialisés les groupes qui sont en place. Voilà.
Nous sommes dans la salle de crise, là où le général Marietti recueillera toutes les informations venues du terrain. Pour le référendum, il a reçu le renfort de 3 escadrons venus de métropole. 1 millier de gendarmes au total seront mobilisés.
Le dispositif va d'abord s'appuyer sur à peu près 76 patrouilles réparties sur l'ensemble du territoire qui ont vocation à tourner, à avoir une certaine visibilité rassurante autour des bureaux de vote. Derrière ce dispositif dit de surveillance, nous sommes en capacité d'intervenir rapidement, dans 15 à 20 minutes, sur l'ensemble des bureaux de vote, pour mettre fin à tout trouble à l'ordre public.
Tout est en place pour assurer un vote dans la tranquillité, assure le général.
Pour ce qui est la remontée du renseignement et l'ambiance qui règne autour du scrutin, c'est une période particulièrement calme. Il n'y a pas actuellement de problèmes ou de conflits sociaux forts qui génèrent une certaine inquiétude. Il n'y a pas d'appel à la violence. En fait, nous sommes dans un climat particulièrement serein.
Les renforts de gendarmerie resteront le temps qu'il faudra sur place. D'autres précautions sont prises. La vente d'alcool est restreinte tout le week-end. Et dans ce pays de chasseurs, le transport d'armes est interdit. Julien Chavanne, Nouméa, RFI.
Et je le rappelle, plus tard dans l'émission, on sera en direct avec notre correspondant Christophe Mallet qui reviendra encore en détail sur l'ambiance sur place. Et on reste dans l'actualité en France, la visite d'Édouard Philippe au Vietnam, le Premier ministre français qui entame aujourd'hui une visite de 3 jours avec pour but de renforcer le partenariat économique entre les deux pays. Et pour joindre le geste à la parole, il a annoncé aujourd'hui la signature de plus de 10 milliards d'euros de contrats dans les domaines de l'aérospatial, de l'énergie ou encore de la santé. On écoute Anne Souhaitemont, envoyée spéciale pour RFI.
Son Excellence, Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre de la République française.
L'espace de quelques heures, Édouard Philippe s'est mué en VRP des entreprises françaises. Clou du spectacle, une cérémonie de signature de contrats, notamment commerciaux, montant autour de 10 milliards d'euros, dont 5,7 pour l'avionneur européen Airbus, qui finalise une commande de 50 moyens courriers avec une compagnie aérienne, Vietjet. Les autres contrats, pas encore finalisés, concernent l'aéronautique et l'électricité.
C'est évidemment des contrats qui traduisent l'intensité croissante du lien économique entre les deux pays.
Un lien économique à construire, puisque pour l'instant, moins d'1% des échanges commerciaux vietnamiens se font avec l'Hexagone. Une visite de 3 jours placée donc sous le signe du développement des liens économiques, mais aussi de la mémoire de la guerre d'Indochine. Édouard Philippe se rendra ce samedi sur le site de l'emblématique bataille de Dien Bien Phu.
C'est un passé commun que nous avons, un passé parfois tragique, mais un passé commun. Le regarder en face, c'est aussi se mettre dans les meilleures dispositions pour construire un avenir commun.
Anne Souhaitemont, Hanoï, RFI.
Et à l'international maintenant, et au Yémen, le patron de l'ONU appelle à la fin des violences. Antonio Guterres a averti que le Yémen pourrait donc faire face à la pire famine connue depuis des décennies. Et le conflit au Yémen a commencé en 2014 lorsque les Houthis ont renversé le gouvernement yéménite jusqu'alors en place. Une coalition saoudienne alliée au gouvernement lutte contre les Houthis depuis 2015. Les Nations Unies ont appelé les belligérants à s'asseoir à la table des négociations d'ici un mois après avoir tenté sans succès en septembre d'organiser des pourparlers de paix à Genève. Des discussions de paix à Koweït avaient déjà échoué en 2016. On écoute Antonio Guterres.
Without urgent action, up to 14 million people, fully half the population, could be at risk in the coming months. To avert imminent catastrophe, several steps are urgently required. First, violence must stop everywhere, with an immediate halt around critical infrastructure and densely populated areas.
Donald Trump a annoncé le rétablissement des sanctions contre l'Iran ce vendredi en publiant sur Twitter. Je cite, les sanctions arrivent, suivi d'un montage photo directement inspiré de la série à succès Game of Thrones. Une manière pour Trump d'annoncer qu'il rétablira dès lundi les sanctions contre l'Iran, levées dans le cadre de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, dont Trump s'est retiré en mai. On l'écoute.
Sanctions start on Iran. They're very serious sanctions. They're very big. They'll be elevated from there. But as you know, sanctions are starting on Iran. And, you know, Iran is taking a very big hit. The country is not the same country as when I started almost 2 years ago.
Et 8 pays qui continuent d'importer du pétrole iranien, Trump a déclaré qu'ils ne seront pas pénalisés. Nouvelle affirmation dans l'affaire de la mort du journaliste saoudien en Turquie, Jamal Khashoggi. C'est la première fois qu'un officiel turc, en l'occurrence le procureur d'Istanbul, dévoile les circonstances du meurtre du journaliste dans le consulat saoudien. En annonçant que Khashoggi a été tué par strangulation et son corps démembré, le procureur d'Istanbul confirme pour la première fois des informations publiées depuis plusieurs semaines par la presse turque. Le corps du journaliste n'a pas toutefois été encore retrouvé près d'un mois après sa mort. Les accusations viennent alors que la fiancée de la victime est appelée les dirigeants mondiaux à traduire les responsables en justice. On l'écoute.
Jamal was killed in a horrific way, and the people responsible admitted to committing this murder. And we still haven't been able to determine the whereabouts of his corpse. I would like to send this message to Mr. Trump. I would like him to support Turkey's legal efforts in trying to bring light to this situation and to discover the whereabouts of his body.
Et de son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l'ordre de tuer Khashoggi émanait des, je cite, plus haut niveau du gouvernement saoudien. L'Arabie saoudite qui n'en finit pas de ternir son image et froisser ses relations avec la communauté internationale. Une domestique indonésienne a été exécutée par les autorités saoudiennes après avoir tué son employé qui avait essayé de l'agresser sexuellement. Une sanction violente dénoncée par l'Indonésie qui n'avait pas été informée au préalable de l'exécution de sa ressortissante et qui s'indigne de sa disparition. Et un autre gros titre qui fait la une, en Indonésie, le président Joko Widodo a rencontré les responsables impliqués dans l'opération de recherche et de récupération suite au crash de l'avion Lion Air. Le tout nouvel avion Boeing 737 MAX 8 s'est crashé ce lundi dans la mer de Java, quelques minutes après son décollage de la capitale indonésienne de Jakarta, tuant les 189 passagers à bord. Joko Widodo dit que toutes les ressources seront utilisées pour comprendre exactement ce qui s'est passé. On l'écoute.
We have to work swiftly to find whatever is to be found. I've also ordered the National Transportation and Safety Committee to work quickly to find out what happened so we can determine the next steps.
Et maintenant, en Australie, Tony Abbott en tant qu'envoyé spécial pour les affaires indigènes. Depuis 2018, une position qui indigne et ses détracteurs sont nombreux. L'ancien Premier ministre a parcouru l'Australie du Sud dans le cadre de ses nouvelles fonctions dans le but d'améliorer les taux de fréquentation scolaire et les résultats scolaires des aborigènes. Monsieur Abbott a déjà concédé que les avis sur sa nomination en tant qu'envoyé spécial sur les questions aborigènes suscitaient des opinions mitigées, mais dit avoir obtenu une réponse plutôt positive de la part des communautés isolées. On l'écoute sur Sky News.
People have access to grind, obviously, and as a senior politician over the years, I've attracted plenty of critics, and I would certainly like to see various overall policy changes, and obviously I'd like to see over time various systemic changes. For the moment, let's tackle the things that are most urgent.
Et un mot en sport maintenant, en football, le FC de Sydney a vaincu 3-0 l'équipe de Melbourne, les plaçant en tête du classement. Adam Lefondre a marqué 2 buts dans le match, ajoutant 7 buts en 6 matchs pour les Sky Blues. Ces derniers ont disputé 3 matchs en 6 jours, dont la finale de la Coupe FFA. On écoute Lefondre.
I'm used to this sort of preparation. Obviously, coming from England, I play 3 games in a week, and that's no problem. So, you know, the conditioning here of the boys is fantastic. You know, I think we proved a lot of things from Tuesday night. Obviously, got that out of our system, and you know, had a really resounding win here.
Et la Corée du Nord et la Corée du Sud prévoient de concourir en tant qu'équipe unifiée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et souhaitent co-organiser les Jeux d'été 2032. Les nations rivales ont publié un communiqué déclarant vouloir participer conjointement à une compétition internationale, en commençant par une équipe combinée au championnat du monde de handball masculin de l'année prochaine en Allemagne. Des athlètes de Corée du Nord et du Sud ont défilé sous un drapeau unifié lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang. Au hockey sur glace, les femmes ont concouru en équipe unifiée, contribuant ainsi à apaiser les tensions sur la péninsule. Et maintenant, un rapide coup d'œil sur la météo d'aujourd'hui avec des températures d'été dans la plus grande partie du pays. Alors bon, de la pluie possiblement attendue, mais 26 degrés sur Perth. C'est nuageux, 21 degrés pour Adélaïde. Nuageux également, 19 degrés pour Melbourne. Du vent et 15 degrés pour Hobart en Tasmanie. Du soleil, 27 degrés à Canberra. C'est ensoleillé, 26 degrés à Wollongong. Du soleil également et 30 degrés pour Sydney. Un peu de vent, mais du soleil, 33 degrés pour Newcastle. Du soleil et 32 degrés pour Brisbane, de la pluie possiblement attendue 30 degrés pour Cairns et enfin de la pluie et de l'orage prévu pour Darwin avec 36 degrés. Et en bourse, aujourd'hui avec un dollar australien, vous achetez 0,68 US dollar, 0,59 euros et 0,52 livres sterling. Et un rappel des grands titres de ce samedi 3 novembre 2018. Le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. La collectivité territoriale du Pacifique Sud vote demain dimanche pour obtenir ou non son indépendance. Les sondages sont en faveur du camp du non. Et on reviendra en direct sur la situation avec notre correspondant sur place, Christophe Mallet, après ce journal. Autre titre de l'actualité, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui à la fin des violences au Yémen pour éviter que le pays ne tombe dans, je cite, un précipice. Et enfin, Tony Abbott a parcouru l'Australie du Sud dans le cadre de ses nouvelles fonctions dans le but d'améliorer les taux de fréquentation et de résultats scolaires des aborigènes. Depuis cette année, l'ancien Premier ministre a la fonction d'envoyé spécial sur les questions aborigènes. Sa légitimité reste mise à mal.
Êtes-vous inscrit au concours national des langues SBS 2018? Le concours est ouvert à toute personne apprenant une nouvelle langue jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, visitez sbs.com.au/nlc18.